Vous êtes sur RTL.
RTL Matin.
6 minutes pour trancher.
Bonjour Vincent Calbeau.
Bonjour Yves Calvi.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes architecte, auteur de Paris 2050, paru aux éditions Michel Lafon. Cette date 2050, on l'a beaucoup entendu ces derniers jours, car d'ici 2050, les épisodes de canicule seront de moins en moins exceptionnels. Il faudra donc s'y habituer. Il est urgent de changer aussi notre urbanisme pour répondre à ces enjeux.
Pour commencer, j'aimerais bien citer Gilles Deleuze qui disait « Croire au monde, c'est ce qui nous manque le plus. Nous avons tout à fait perdu le monde, on nous en a dépossédé. » Cette citation, Gilles Deleuze, elle synthétise très bien, selon moi, le carrefour de crise dans lequel on a enfermé aujourd'hui les millennials, c'est-à-dire cette nouvelle génération née après l'an 2000,
oui,
qui demande à leurs parents et à leurs grands-parents « Pourquoi vous avez organisé l'obsolescence programmée de la planète ?» et « Pourquoi aujourd'hui on consomme 2,5 fois ce que notre planète produit ?» Cette génération, elle veut construire des villes post-carbone, des villes post-fossiles, des villes post-nucléaires, des villes post-insecticides, des villes qui réussissent finalement à retisser la symbiose avec l'environnement et avec la nature.
Et on va pouvoir la changer, notre ville, parce que c'est aussi, avec l'incendie de Notre-Dame, on se rend compte que nous sommes aussi les détenteurs d'une histoire. Et que dans des villes chargées d'histoire, comme Paris par exemple, et beaucoup de nos villes de province ou de région, on se dit, mais comment peut-on faire évoluer une architecture qui déjà, elle, historiquement, est posée, si je puis dire. Vous comprenez ma question ?
Effectivement, l'incendie de Notre-Dame nous a
rappelé, sans la dénaturer, vous m'avez compris,
finalement, que le patrimoine de demain se construit aujourd'hui. Et que les architectes, que les urbanistes, que les écologistes, que les politiciens aujourd'hui ont en charge de construire des villes denses, des villes vertes, des villes végétalisées, qui rapatrient la nature au cœur de la ville, qui proposent des bâtiments à énergie positive, qui intègrent des énergies renouvelables, et qui proposent finalement d'avoir un plan d'urbanisme qui puisse apporter des solutions ou des règlements.
Alors, je m'arrête un instant sur l'architecture végétalisée, dont certains, mais je ne rentre pas du tout dans cette querelle d'architectes, estiment que ce n'est pas de l'architecture. Mais est-ce que ça n'est pas artificiel au sens premier du terme ? C'est-à-dire, est-ce que le fait de se retrouver avec un peu de verdure sur nos murs, sur nos toitures, change au bout du compte quoi que ce soit à l'enjeu climatique ?
Aujourd'hui, Paris, la plus belle ville du monde.
Vous comprenez le sens de ma question ?
Je comprends très bien. Ah,
parce que j'imagine que, évidemment, et je sais d'ailleurs que vos projets sont beaucoup plus ambitieux que ça, mais parfois on en a cette perception. C'est, on passe devant un immeuble où il y a un peu de verdure. Oui, qu'est-ce que ça apporte en dehors du fait que ça soit plaisant à l'œil, si je puis dire ?
Paris, aujourd'hui, qui est l'une des villes les plus belles du monde, est l'une des villes les plus minérales. Si vous êtes sur la skyline de Paris, vous voyez une ville grise, une ville imperméable, une ville très fragile par rapport aux canicules et également aux fortes crues. La végétalisation du bâti permet d'augmenter l'inertie des bâtiments, permet d'absorber l'eau pluviale, permet grâce à l'évapotranspiration des plantes de diminuer de 3 à 5 degrés la température ambiante de la ville.
Là, vous me dites que ça n'est pas de l'esthétique pure, c'est ou j'allais dire de l'aération, c'est au sens premier, ça a un effet.
La végétalisation aujourd'hui marque vraiment la troisième ère de l'urbanisation mondiale. On a construit d'abord les villes sur la nature, ensuite on a construit la ville sur la ville en la densifiant, aujourd'hui on rapatrie la nature au cœur de la cité. Car après avoir eu un 20e siècle qui était basé sur le carbone, sur le charbon, ouais, sur l'acier, sur le béton, le 21e siècle sera biologique et doit réintégrer les écosystèmes au cœur de la ville. C'est ce qu'on appelle l'urbanisme et l'architecture biomimétique qui propose non pas un modèle énergivore basé sur l'importation de matières premières et de ressources naturelles et sur l'exploitation de pollution et de déchets, mais bien sur une économie circulaire qui fasse en sorte que le vivant nous permette finalement de lutter contre le dérèglement.
La France et en particulier nos grandes villes sont en retard en la matière ? Vous qui avez une vision internationale forcément dans votre...
En France, on a quand même une vision très proactive pour finalement réellement construire des bâtiments à énergie positive, construire des territoires où les bâtiments puissent échanger en temps réel les énergies qu'ils produisent, pour venir finalement intégrer aussi l'agriculture urbaine, qui n'est pas du tout cosmétique, mais qui permet de ramener les lieux de production alimentaire au cœur des lieux de consommation, donc de consommer moins et de polluer moins.
J'en reviens à un constat très simple. Lundi matin, au même micro, Louis Baudin, évoquant cette canicule, nous disait que le gros problème des villes venait aujourd'hui essentiellement du béton. Le béton garde la chaleur et en plus la fait remonter. Or, le béton a été le symbole de l'architecture la plus créative des deux siècles qui viennent de s'écouler. Donc, bye bye le béton ?
Non, aujourd'hui, il y a des nouveaux bétons, il y a des bétons ultra performants, il y a des bétons précontraints. Mais effectivement, la ville minérale est une ville qui est très soumise à ce qu'on appelle les effets d'îlots de chaleur urbains. C'est-à-dire qu'à Paris, par exemple, oui, la nuit, on a entre 7 et 10 degrés supplémentaires par rapport à la campagne. Car, par exemple, rue de Rivoli, tous les bâtiments haussmanniens captent la chaleur et la restituent la nuit.
Oui.
Dans le plan Paris 2050, à la demande de la mairie de Paris, on a proposé de construire des forêts verticales au-dessus des bâtiments haussmanniens qui dressent leur bouclier photovoltaïque photovoltaïques et thermiques le long des Tuileries, le long de la course du soleil, et qui sont recouverts des plus grands cépages des vignobles français pour venir évapotranspirer la ville.
Vous êtes habile parce que vous nous amenez finalement le pinuche au milieu de la végétalisation, ce qui prend évidemment tout de suite un caractère festif auquel on n'avait pas pensé. En vous écoutant, je me disais, mais en fait, est-ce qu'il a choisi son métier et cet engagement, je dirais, vers la biodiversité aussi de l'architecture, avant de choisir l'architecture en tant que telle? Vous comprenez le sens de ma question?
Au début, je voulais être architecte de jardin ou horticulteur, et finalement, je me suis orienté vers les bâtiments. Je fais partie de cette nouvelle génération où on a été directement sensibilisé par Al Gore, par Nicolas Hulot, par ces grandes sensibilisations des règlements climatiques. Et on veut passer à l'action et ne pas simplement rester sur le constat de la COP21. Aujourd'hui, on sait grâce à tous les nouveaux matériaux biosourcés, grâce aux énergies renouvelables, grâce au système passif, à la géothermie, grâce à la végétalisation, en multipliant nos effectifs dans nos équipes, par exemple avec des ingénieurs agronomes, on arrive à apporter des solutions optimistes pour construire la ville de demain.
Est-ce que ça coûte cher? Est-ce qu'on en a les moyens? On vient de vivre 6 mois d'épisode de Gilets jaunes, hein, ça ne vous a pas échappé. Et le gouvernement a dû trouver 17 milliards qui ne seront pas consacrés à autre chose. Et voilà, et avec des personnes qui disaient que déjà leur propre mode de vie était difficile et qu'elles n'entendaient pas se priver encore plus.
Construire un bâtiment smart and green ne coûte pas plus cher que construire un bâtiment inerte qui est obligé d'être accordé à un réseau centralisé.
Oui.
En fait, il suffit de changer l'échelle du temps. Plutôt que de partir sur une économie court-termiste, il faut penser à moyen terme pour faire en sorte que la plus-value initiale pour intégrer la végétalisation du bâti et les énergies renouvelables soit calculée dans les économies d'exploitation. Si par exemple un bâtiment est complètement autonome en énergie, en 10 ans, il peut payer la plus-value initiale et après 10 ans, il est en cash flow positif finalement vu qu'il produit lui-même l'énergie dont il a besoin.
Une question très précise, est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que par exemple à Paris, le boulevard périphérique doit disparaître ?
Oui, dans le plan Paris 2050, on a par exemple étudié le fait de construire des fermes urbaines à chaque porte de Paris. Et on a calculé qu'on pourrait produire jusqu'à 25% du fruit et des légumes biologiques grâce à la permaculture et à l'aquaponie redistribués en circuit court. On pourrait donc imaginer que le périphérique devienne le 21e arrondissement de la ville de Paris, un boulevard dédié aux énergies renouvelables et à la végétalisation qui vienne finalement cicatriser cette plaie béante des années 60 entre le Paris historique et le Grand Paris de demain.
Cette plaie béante, elle nous a fait vivre, elle nous a conduit à Rungis qui alimente la moitié de la France, elle fait travailler des millions de gens. Est-ce que vous comprenez que ce que vous nous dites là peut paraître totalement surréaliste, voire irréaliste?
Aujourd'hui, on s'oriente...
On va quand même avoir besoin de travailler, de gagner notre vie, notamment pour financer ces projets magnifiques dont vous nous parlez.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer à l'échelle mondiale? C'est-à-dire que durant les années 60, on a monofonctionnalisé la ville. On a fait un Paris intramuros sous cloche, muséifié, gentrifié. On a construit la Défense, monofonctionnelle de bureaux. On a construit des quartiers dortoirs. On a fait le même en agriculture. On avait les légumineuses sur le champ de gauche, les céréales à droite et les arbres fruitiers au fond. On est donc dépendant de la voiture et dépendant des produits phytosanitaires. Si on vient rapprocher le lieu de vie près du lieu de travail, on peut finalement rapatrier l'esprit de village au cœur de la ville en disant il faut simplement devenir plus sédentaire.
Tout cela avait une raison. Il ne vous échappe pas qu'après la guerre, il a fallu nourrir des millions de gens, se remettre au travail, avoir une agriculture qui fournisse, qui fournisse, qui fournisse. C'était juste une étape, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Et on doit passer à autre étape. Chose. Aujourd'hui, on va vers un mixte énergétique et on va vers un mixte agricole qui nous permet de véritablement mettre en place la transition énergétique et écologique.
Les bâtiments à énergie positive, c'est-à-dire qui créent de l'énergie, est-ce que vous pouvez nous expliquer en 3 mots ce que c'est, le mode de fonctionnement, de façon la plus claire possible?
Donc, un bâtiment énergie positive se construit en 3 étapes. La première étape, c'est lui assurer une super isolation avec des isolants naturels, intérieurs et extérieurs, qui lui permettent, justement, s'il y a 35 degrés dehors, de garder une température de 25 degrés intérieur. La deuxième étape, c'est intégrer les systèmes passifs, comme par exemple la géothermie. Oui. On sait que l'inertie du sol, sous les fondations d'un bâtiment, est à 18 degrés toute l'année. Et donc, l'air chaud, on le fait passer sous les fondations avant de le réinsuffler dans les appartements. Ainsi, plus besoin, ou presque plus besoin, de climatisation mécanique. La troisième étape, c'est l'intégration des énergies renouvelables qui permettent à un bâtiment de produire plus d'énergie qu'il n'en consomme et de redistribuer cette plus-value énergétique au bâtiment historique.
Une toute dernière petite question, Vincent Calbeau. Vous avez un projet de sol qui crée de l'énergie grâce à nos pas. Est-ce que c'est sérieux et comment est-ce possible?
Donc, c'est un projet qui est développé par l'EPFL à Lausanne, qu'on a proposé notamment
des gens
pour
sérieux,
la gare du Nord.
Oui.
On sait par exemple que si l'on recouvre les 32 quais de la gare du Nord de dalles piézoélectriques, c'est-à-dire des dalles à sustentation d'induction magnétique, on peut produire 200% de l'énergie dont la gare du Nord a besoin grâce aux 1,5 million de pieds qui foulent la gare du Nord chaque jour.
En tout cas, votre énergie fait plaisir à entendre. Merci beaucoup Vincent Calbeau. Je rappelle qu'on peut retrouver tous vos projets sur votre site internet vincent.calbeau.org. Les références sont bien entendu sur le site d'RTL. Bonne journée à vous.
Merci.
Yves Calvi, RTL Matin.
Pour tout comprendre de l'actualité.